Chers auditeurs, dans notre histoire du diocèse de Bayonne, nous en sommes donc au XIIe siècle. Raymond II aura un successeur qui s'appelait Guillaume. Et nous connaissons son nom grâce à un acte de donation conservé dans ce qu'on appelle le livre d'or. C'est le cartulaire de Bayonne, les archives du chapitre, qui se trouve à Pau. Et à partir de là, le siège épiscopal de Bayonne sera pourvu régulièrement durant tout le XIIe siècle. Grâce à la réforme grégorienne, la nomination des évêques revient désormais au chapitre. Les chanoines de Bayonne portent leur choix sur des personnages très variés. C'est parfois un moine de Saint-Sevé, de l'abbaye bénédictine de Saint-Sevé. Par exemple, Bernard d'Astarac et Raymond de Martres. Ou bien des prêtres de Dax, par exemple Arnaud de Bessaba. Ou bien même des prêtres du diocèse de Bayonne, par exemple un archidiacre de Maya dans le Bastan. Et un autre chanoine de Bayonne, certain Garcias. Originaire du diocèse, sans qu'on sache d'ailleurs quel était leur statut exact. L'archidiacre, on voit bien ce que cela veut dire, mais il y a eu Pierre-Bertrand d'Espelette et Bernard de Lacare, qui étaient bien de chez nous, mais nous ne savons pas quel était le ministère qu'ils occupaient dans le diocèse. Nous nous intéressons, mais nous le ferons très rapidement bien sûr, à quatre d'entre eux. D'abord Bernard d'Astarac, qui fut évêque de 1080 à 1118. Un historien du diocèse, le chanoine Veillé, qui vivait à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, le chanoine Veillé nous dit que son zèle le porta à aller en Espagne travailler à la conversion des morts. Il est probable qu'il prit part à une croisade décidée par un concile réuni à Toulouse en 1098 par le pape Gélase II. Et Bernard d'Astarac s'est trouvé au siège de Saragosse. Il ne semble pas qu'il ait eu un rôle important, contrairement à l'évêque de Huesca, qui apporta une aide matérielle décisive aux assiégés, ou encore à l'évêque de Pampelune, qui conduisit les Navarrais dans le dernier assaut qui ouvrit dans la muraille la brèche permettant la conquête de la ville. À son retour, d'ailleurs, Bernard d'Astarac fut nommé archevêque d'Auch. Il y eut également un évêque qui s'appelait Raymond de Martres, qui fut évêque de 1125 à 1130, qui reçut du duc d'Aquitaine, et qui était en même temps vicomte de Bayonne, la confirmation du don de la moitié de la ville de Bayonne, fait à l'église Sainte-Marie, ainsi que la dîme du port de Bayonne et de tout le péage. Il était non seulement le responsable spirituel de la ville, mais le responsable, j'allais dire, civil d'une bonne partie de cette ville. Et il reçut encore pour l'église Sainte-Marie, et alors dans la campagne, le droit de patronage sur toutes les terres cultes et incultes, celui d'y fonder des exploitations agricoles, de construire des nasses et des moulins. Et à Bayonne, c'est Raymond de Martres qui commença la construction d'un pont sur l'Adour. Il est certain que sous son court épiscopat, le Labour, Bayonne et le Labour, connurent un renouveau démographique et économique certain. Et en raison de son action en faveur de la ville épiscopale, on l'a appelé le père de la patrie bayonnaise. Et une rue de la ville porte actuellement son nom. M. Eugène Goyenech pourra écrire que l'entente du vicomte et de l'évêque fut l'élément essentiel de la Renaissance de Bayonne. L'évêque Adhémar est connu pour avoir assisté à Rome en 1179 au 11e concile œcuménique, un concile dont on a dit qu'il avait excommunié les Basques. En fait, le concile souleva la question des brigandages auxquels se livraient des bandes de Basques et de Navarrais de connivence avec des Brabançons et des Aragonais. Ceux qui furent excommuniés, ce furent ceux qui allaient prendre ces routiers à leur solde, mais également ceux qui s'associeraient à ces bandes. Ce ne sont pas donc les Basques qui, à proprement parler, ont été excommuniés. Enfin, nous parlons de Bernard de Lacar, qui fut évêque de Bayonne de 1185 à 1206. C'est un personnage haut en couleur et au caractère bien trempé que ce Bernard de Lacar. Il prit part à la troisième croisade et il accompagna Richard, roi d'Angleterre. Il faut se rappeler que la vicomté du Labour appartenait au duché d'Aquitaine qui venait de passer à la couronne d'Angleterre. Le vicomte du Labour, donc je viens de le dire, était devenu anglais vers 1160 et Richard d'Angleterre avait nommé Bernard de Lacar amiral de sa flotte avec là d'ailleurs l'archevêque d'Auch. Ils étaient en tout six à commander la flotte anglaise. En cours de route, après avoir atteint Messine en Sicile, où devait le rejoindre Philippe Auguste, le roi de France, Richard eut un différend grave avec Tancrède, roi de Sicile. Mais il y eut bien sûr et heureusement une réconciliation. Elle fut scellée par un traité de paix dont l'un des témoins fut Bernard de Lacar. Profitant d'un arrêt forcé à Chypre, Richard y épousa sa fiancée qui l'avait accompagnée. C'était Bérengère de Navarre et Bernard de Lacar assista à ce mariage. Richard parvint à Acre, assiégé par les croisés. Et Bernard de Lacar était là, le 12 juillet 1191, pour signer l'acte de capitulation de la garnison musulmane. Mais pour la fin de l'année, Bernard de Lacar était de retour à Bayonne et on ne sait pas pour quelles raisons. Gardons-nous de penser que l'histoire du diocèse de Bayonne à cette époque et celle de ses évêques se résume à l'activité politico-économique que nous avons évoquée à partir des rares textes qui nous sont parvenus. Il est permis de penser très légitimement qu'ils ont montré également beaucoup de zèle à promouvoir et à soutenir la vie chrétienne de leur diocésain. Et il faut souligner le sens qu'avaient ces évêques de la collégialité. Nous avons dit que l'évêque de Bayonne assista en 1179 au concile du Latran à Rome. Ce n'était pas une mince entreprise que de se rendre de Bayonne à Rome. L'évêque de Dax y était également. Voyageaient-ils ensemble ? Quelques décennies auparavant, le pape Gélase II avait réuni un concile régional à Toulouse. Bernard d'Astarac y était. Devenu archevêque d'Auch, celui-ci réunit dans la métropole, c'est-à-dire à Auch, un concile régional. Et son successeur à Bayonne y prendra part. L'évêque de Bayonne avait lui aussi recours aux bons offices d'évêques voisins ou amis pour régler par un arbitrage les difficultés qui pouvaient surgir dans son diocèse. C'est souvent que l'évêque de Dax intervient ainsi à Bayonne, et on le comprend car l'église de Bayonne était fille de l'église de Dax. Mais il n'intervient pas toujours seul. Il a par exemple celui de Lectoure, l'évêque de Lectoure à côté de lui, pour régler une question de dîme que le seigneur de Bastan refusait à l'église de Bayonne. Et c'est encore à l'évêque de Dax que Bernard de Lacar et les chanoines font appel au sujet de la propriété de l'église d'Ossès. beaucoup de ces décisions prises alors grâce à ces arbitrages des évêques amis et voisins, eh bien, seront respectées pratiquement jusqu'au concordat de 1801.